Radio Prague, les informations.
Poursuite des négociations entre les partis de la potentielle coalition gouvernementale. Selon un sondage, un tiers des Tchèques préfèrent avoir Mirek Topolánek à la tête du prochain gouvernement. Et puis en sport, Coupe du monde de football, les Tchèques toujours inquiets par la blessure de Jan Koller. Les négociations se sont poursuivies ce mardi entre les trois partis qui tentent de former une coalition gouvernementale, le Parti civique démocrate, l'Union chrétienne démocrate et les Verts. Des négociations qui, même si elles aboutissent, ne garantissent pas à cette coalition d'obtenir une majorité à la Chambre des députés pour le vote de confiance. Un tiers des Tchèques préféraient voir le chef de l'ODS, Mirek Topolánek, prendre la tête du prochain gouvernement, contre un quart seulement favorable au Premier ministre sortant, le social-démocrate Jiří Paroubek. C'est ce que révèle un sondage réalisé par l'agence Factum Invenio, alors qu'une nouvelle manifestation a réuni environ un millier de personnes sur la place Venceslas pour demander le départ de Jiří Paroubek, accusé par les participants d'être une menace pour la démocratie tchèque. Des dizaines de couples homosexuels auraient l'intention de conclure un partenariat enregistré, mais le manque d'informations sur les démarches administratives reste un problème. Malgré le veto présidentiel, rappelons que la nouvelle loi sur le partenariat enregistré entrera en vigueur le 1er juillet prochain. La galerie municipale de Prague expose à partir de ce mardi, dans la maison Ukameneros Vonu, la collection du cinéaste français Bruno Decharme, une collection d'art brut intitulée ABCD, qui existe depuis 25 ans et que Decharme voudrait installer de façon permanente dans la capitale tchèque. On passe au sport avec du football, bien sûr, et la Coupe du Monde en Allemagne. L'attaquant de la sélection tchèque Jan Koller pourrait être indisponible entre 10 jours et 6 semaines. C'est ce qu'a annoncé mardi le médecin de l'équipe tchèque au lendemain de la sortie sur blessure de Koller contre les États-Unis. L'attaquant de 33 ans, récemment transféré de Dortmund à Monaco, était sorti peu avant la fin de la première période en raison d'une blessure à la cuisse droite. Et puis toujours à propos de football, la presse spécialisée de l'Hexagone indique que des entretiens ont eu lieu entre la direction de l'Olympique Marseille et Zdeněk Zeman. Le Tchèque, ancien coach de la Lazio et de l'AS Rome notamment, serait l'un des potentiels candidats au poste d'entraîneur sur la Canebière. Et puis on termine ce bulletin comme d'habitude avec la météo. Mercredi, le temps en République tchèque sera variable avec des averses et des orages et les températures diurnes varieront entre 23 et 27 degrés. C'était Alexis Rosenzweig pour le bulletin d'information. Dans un instant, la suite du programme en français.
Faits et événements en République tchèque. Guillaume Narguet.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être restés en notre compagnie. Nous entamerons ce tour d'horizon de l'actualité en République tchèque par la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Union européenne à Luxembourg. Nous reviendrons ensuite sur l'ouverture du procès de deux anciens agents de la police secrète tchécoslovaque à l'origine de l'attentat sur le préfet du Bas-Rhin. Voilà de cela bientôt 50 ans. Nous parlerons également bien entendu de football avec l'entrée en fanfare de la République tchèque en Coupe du Monde. Enfin, nous terminerons avec l'ouverture d'un festival de culture juive, tchèque et allemande à Prague. Toute l'équipe de la rédaction française de Radio Prague vous souhaite une agréable réception de nos programmes. Lundi, lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères européens qui se tenait au Luxembourg, Cyril Swoboda a réussi à imposer en partie la vision tchèque de la stratégie politique de l'Union européenne à adopter contre Cuba. Rappel des faits et détails de la décision avec Anna Kubishta.
Outre les discussions autour de l'ouverture des négociations d'adhésion de la Turquie et de la Croatie à l'Union européenne, c'est l'éternel et controversé cas cubain qui s'est retrouvé au programme des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Les concessions obtenues avec le soutien de la Pologne, des Pays-Bas et du Danemark pour plus de sévérité envers le leader Maximo restent cependant bien en deçà de ce que la diplomatie tchèque souhaiterait imposer. Mais compte tenu du fait que sa position était jusqu'alors relativement minoritaire, Cyril Svoboda s'est félicité que l'on voit clairement la signature tchèque dans la déclaration commune européenne. De quoi s'agit-il ? De mettre sur pied une stratégie à long terme vis-à-vis de Cuba, avec comme perspective la disparition d'un Fidel Castro dont l'âge avancé de 80 ans est un des rares espoirs pour ceux qui rêvent d'un retour de la démocratie sur l'île. Envisager l'après-Castro, c'est envoyer un signal fort aux dissidents, leur montrer que l'on se prépare concrètement à la période de transformation et de réconciliation, a notamment expliqué Cyril Svoboda. Si contrairement à ce que souhaiterait la République tchèque, l'Union européenne n'entend pas renouveler les sanctions diplomatiques contre la Havane dans l'année à venir, elle émet toutefois des critiques sur les violations des droits de l'homme et demande la libération sans condition de tous les dissidents emprisonnés. Une position qui rejoint celle du ministre tchèque des Affaires étrangères.
Tous les prisonniers politiques doivent être libérés et on ne peut pas commencer à faire des distinctions entre eux. Il faut aussi soutenir ceux qui sont sous la pression du bannissement public, par exemple les proches.
Des dissidents qui, eux, restent plutôt sceptiques sur l'attitude adoptée par l'Union européenne. Déjà l'an dernier, suivant les positions espagnoles et françaises, l'Union avait supprimé les sanctions jusqu'alors en vigueur après la libération de 15 des 75 dissidents emprisonnés en 2003. Certaines voix des exilés cubains font part de leurs doutes quant à l'efficacité réelle de cette politique d'apaisement et rappellent que seuls 2 ou 3 pays les comprennent vraiment. J'ai l'impression que l'Union européenne a peur de Castro, comme si elle n'osait pas lui dire clairement que les droits de l'homme sont pour elle plus importants que le commerce. Une telle position la dessert pourtant, et les Européens feraient mieux de s'en rendre compte une bonne fois pour toutes, a récemment déclaré l'ex-président Václav Havel à Bruxelles. Cyril Svoboda a souligné que l'Union européenne manquait de moyens de pression, car en matière d'énergie, par exemple, la Havane apporte l'essentiel du Venezuela, dont le président Hugo Chavez est proche de Castro. Le ministre des Affaires étrangères tchèque a encore une fois réitéré sa volonté de continuer à inviter des opposants aux réceptions de l'ambassade tchèque à La Havane.
Un procès contre 2 anciens officiers de la STB, police secrète du régime communiste, a été ouvert à Prague. Milan Michel et Stanislav Tomeš sont accusés d'avoir préparé en 1957 l'attentat contre le préfet du Bas-Rhin de l'époque, André-Marie Trémaux. Václav Richter.
L'objectif de la STB était de simuler un attentat terroriste d'une organisation de néo-nazis allemands pour semer la discorde entre la France et l'Allemagne. L'attentat commandé par la police politique soviétique, le KGB, et réalisé par les services secrets tchécoslovaques devait bloquer l'intégration européenne naissante et la collaboration entre les anciens adversaires de la Deuxième Guerre mondiale. Un colis piégé en forme de boîte à cigares a été envoyé au préfet du Bas-Rhin, André-Marie Trémaux. Cependant, le colis posté à Paris par un agent secret tchécoslovaque n'a pas explosé comme prévu lors d'une réception de la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Il a tué, 3 jours plus tard, l'épouse du préfet Henriette Trémaux. Les autorités françaises ont facilement décelé l'intrigue, mais n'ont pas eu la possibilité de punir les coupables, car ces derniers avaient déjà quitté la France. L'Office de documentation et d'enquête sur les crimes du communisme n'a rouvert le dossier de cette affaire qu'en 1996, et cette initiative a finalement permis de traduire en justice 2 anciens officiers de la STB. Milan Michel aurait amené en avril 1957 le colis piégé en France, tandis que Stanislav Tomeš aurait envoyé le colis de Paris à l'adresse d'André-Marie Trémaux. Le procès contre les 2 accusés, aujourd'hui octogénaires et malades, a été ouvert lundi, mais la première audience a été close rapidement. Seul Milan Michel s'est présenté devant le tribunal, mais son avocat a tout de suite déclaré que pour des raisons de santé, son client n'était pas capable de suivre les délibérations. La suite du procès a donc été renvoyée sine die. On estime cependant que le procès est nécessaire et utile, quelle que soit son issue. Même si les 2 accusés étaient finalement acquittés pour manque de preuves, et si leur condamnation n'était que symbolique à cause de leur âge et leur état de santé, le crime serait sorti de l'oubli. Selon le directeur adjoint de l'Office de documentation et d'enquête sur les crimes du communisme, Pavel Brett, cité par le journal Mladá Fronta, il ne s'agit pas d'une vengeance, mais du minimum de justice que nous devons au moins à Henriette Trémaux, à qui cet acte terroriste a coûté la vie.
L'équipe de République tchèque de football a réussi son entrée en matière à la Coupe du Monde en venant à bout 3-0 des États-Unis lundi à Gelsenkirchen. Une victoire acquise avec la manière qui confirme que les joueurs de Karel Brückner font bel et bien partie des prétendants aux honneurs. Selon Bro Tableau, la blessure dont a été victime son attaquant Jan Koller, une blessure qui devrait le tenir écarté des terrains pour les prochains matchs. Face à une équipe américaine redoutée mais finalement pas aussi redoutable que son statut de quart de finaliste du dernier mondial ne le laissait supposer, les Tchèques ont rapidement pris les affaires en main. Le coup d'envoi venait d'être sifflé depuis à peine 5 minutes que Yann Koller se trouvait à la conclusion d'une action d'école, comme les entraîneurs aiment en dessiner au tableau noir, le géant tchèque reprenant de la tête un centre millimétré venu de la droite. Les Tchèques avaient toutefois le tort de reculer, de laisser l'initiative du jeu aux Américains, et leur gardien Petr Čech était même tout heureux d'être sauvé par son poteau. C'est alors que Tomáš Rosický, peu en vue jusqu'alors, sortit de sa boîte. À la récupération d'un ballon, il soulageait les siens d'une frappe des 25 mètres qui peut d'ores et déjà concourir au titre de plus beau but de la compétition. À l'issue de la rencontre, Petit Mozart, comme le surnomme à la presse tchèque depuis ses débuts au Sparta de Prague, expliquait qu'il n'avait fait qu'appliquer les consignes de l'entraîneur.
Je ne suis pas un vrai buteur, c'est certain, mais l'entraîneur nous avait demandé de tirer souvent au but, de prendre notre chance à cause du nouveau ballon. Lorsque vous le frappez bien, vous n'avez pas forcément besoin de mettre beaucoup de force, mais le ballon vole beaucoup. C'est donc ce que je me suis efforcé de faire, mais sur le premier but, le plus important était de bien contrôler le ballon afin de pouvoir enchaîner tout de suite sur le tir. Sur le second, j'ai eu le temps de réfléchir. Finalement, j'ai placé le ballon au-dessus de la main du gardien. Je peux regretter la frappe sur la barre transversale, cela aurait pu faire 3 buts, mais il ne faut pas trop en demander non plus.
Et Tomáš Rosický continua de laisser libre cours à son talent en seconde période. Après qu'un nouveau tir lointain ait fracassé la barre transversale, il assomma définitivement les Américains. Idéalement servi par Pavel Nedved, il signait un doublé plein de sang-froid. Malgré ce succès probant, célébré comme il se doit par les médias pragois mardi, les Tchèques s'inquiètent du sort de leurs attaquants. Déjà privés de Milan Baroš, blessé et toujours incertain pour les prochains matchs, ils ont cette fois perdu leur géant Yann Koller, dont le rôle de pivot sur le front de l'attaque est primordial pour le jeu de l'équipe. Heureusement, la blessure pourrait être moins grave que prévu, comme l'a confirmé l'intéressé.
Sur le coup, j'ai pensé qu'il s'agissait d'une rupture de muscle et que c'était fini pour moi. Finalement, les examens ont montré que j'ai eu de la chance dans mon malheur puisque seules quelques fibres musculaires sont déchirées. Je peux donc espérer participer encore au tournoi. Pour l'instant, il faut 3 ou 4 jours de repos avant de commencer à soigner. Ensuite, on verra comment la blessure évolue.
Samedi, pour son 2e match dans le groupe E, la République tchèque sera opposée au Ghana. Une victoire la qualifierait presque d'ores et déjà pour les 8e de finale. Le festival Devět Bran, 9 portes dédiées aux traditions juives et allemandes dans la culture tchèque, s'ouvre pour la 7e fois à Prague. Un reportage signé Jarka Gisibelova.
La 7e édition du festival 9 portes a été inaugurée symboliquement devant une plaque commémorative placée dans le 7e arrondissement de Prague, indiquant que c'était de ces lieux que 45 513 hommes, femmes et enfants ont été déportés pendant la guerre à Térésine. Le directeur du festival 9 portes, Pavel Chalupa, dit que cela est devenu une tradition.
Festival Devět Bran vzniknul v roce 2000 jako jakási připomínka toho českého.
Le festival est né en 2000 comme un rappel de la coexistence des cultures tchèques, juives et allemandes, coexistence à laquelle les événements de guerre, la Shoah et le transfert des Allemands des régions limitrophes ont mis fin. Le thème accentué de cette édition est le passé et le présent juif en Allemagne. Après la Russie, la Pologne et la Tchécoslovaquie, nous avons décidé de retracer la tradition juive en Allemagne, où 650 000 juifs vivaient avant la guerre. Le sens du festival est de présenter la culture juive considérée comme morte après la guerre au jeune public, et pas seulement à lui, mais aussi à tous les visiteurs du festival.
La première de la symphonie en do majeur d'Ignaz Moscheles, disciple de Salieri, les ensembles de musique klezmer, Paul Brodybent et 17 hippies, l'exposition d'œuvres plastiques de Franz Kafka, la lecture d'auteurs, au cours de laquelle on accueillera Lenka Reinerova, dernière femme de lettres tchèques, d'origine juive et d'expression allemande, et la pièce Mein Kampf de Georg Tabori, sont les principales manifestations au programme du festival. C'est deux points forts seront la pièce controversée Tiso de l'auteur slovaque Rastislav Belak avec Marianne Labouda dans le rôle principal et le concert de clôture donné samedi soir à la synagogue espagnole par le grand ensemble de la synagogue de Moscou sous la baguette du cantor de cette synagogue Boris Finkelstein. La partie automnale du Festival Neuf Portes qui se déroulera à Prague, Marianské Lázně, et dans 8 autres villes sera consacrée à la création cinématographique.
Voilà, et c'est sur cette note culturelle que prennent fin ces faits événements. Merci de votre attention et restez bien entendu avec nous pour la suite de nos programmes.
La République tchèque au quotidien.
Donne-moi ta main.
L'école est finie, fredonnait la chanteuse française Sheila. Et en effet, le mois de juin sonne le glas de l'année scolaire. Les vacances scolaires approchent à grands pas et avec elles la fin de mois de labeur. C'est donc avec cette heureuse perspective à l'horizon et dans une atmosphère plutôt décontractée que nous nous sommes rendus il y a quelques semaines au lycée slave d'Olomouc, qui a la particularité d'avoir une section française. Rue Pasteur, à Olomouc, la section française occupe un bâtiment indépendant des locaux du Slovansky Gymnasium, le lycée slave. Là, chaque année, depuis 16 ans maintenant, de jeunes tchèques font le choix de l'apprentissage du français, mais aussi et surtout d'un enseignement bilingue et bien différent de celui de la plupart de leurs camarades du même âge. En effet, mathématiques, physique, chimie et histoire-géographie sont les 5 matières qui, dès la 3e année d'études, sont enseignées exclusivement dans la langue de Molière. Et à la fin de ce cursus scolaire pas tout à fait comme les autres, c'est avec un baccalauréat tchèque et français en poche que les lycéens qui auront tenu le rythme entreront dans la vie universitaire. Des études qu'ils pourront ainsi entamer soit en République tchèque, soit en France, sans avoir à passer d'examen d'entrée de langue française, puisque leur diplôme de fin d'études secondaires y est reconnu au même titre qu'un baccalauréat normal. Zuzana Chaloupková enseigne depuis les débuts de la section le français et la littérature. Pour elle, il n'y a pas que pour les élèves que la barre est placée haut.
Je pense que c'est un défi à un professeur tchèque qui doit enseigner sa discipline. Ça concerne surtout les professeurs qui enseignent autre discipline que le français, parce qu'ils doivent savoir leur discipline et puis l'enseigner en français. Pour moi, j'enseigne le français, donc c'est un peu différent, mais ça dépasse quand même un enseignement normal d'une langue étrangère parce qu'on enseigne aussi la littérature, on travaille l'argumentation, les textes littéraires, la lecture méthodique, tout ce que font les professeurs et les élèves en France. Donc on essaye de travailler d'une manière pareille ici. Et c'est quelque chose qui me tente beaucoup parce que ça m'oblige toujours de travailler en plus, ça m'oblige de préparer mes cours. Tout le temps. Donc, c'est un travail qui n'est jamais fini.
Vous suivez le programme français, c'est-à-dire que, par exemple, l'exercice assez classique pour des élèves français qui est la dissertation, vous la faites aussi. Comment est-ce que réagissent les élèves? Les élèves tchèques ne sont pas forcément habitués à ce type d'exercice?
En fait, l'enseignement du français a 2 périodes qui sont un peu différentes. D'abord, les élèves commencent à apprendre la langue. Donc, ils viennent ici sans savoir parler français. Il y en a des exceptions qui parlent un peu, mais donc ils apprennent le français comme une langue étrangère. Et puis, à un certain niveau, à partir de la 3e année, ils commencent à apprendre aussi la méthodologie française, c'est-à-dire des exercices comme l'argumentation, la discussion, la dissertation, la compréhension d'un texte argumentatif. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau. Au début, ils ont des difficultés, mais ils s'habituent assez bien parce que en général, ce sont des élèves qui sont très doués. Ils apprennent plus ou moins vite ces méthodes.
Que vous avez eu des échos d'anciens élèves qui sont revenus vous voir et vous ont dit que ces méthodes différentes les avaient aidés plus tard dans leurs études. Est-ce que c'est compatible finalement avec la suite?
Oui, justement. Donc les élèves, ils reviennent très souvent et les échos sont très positifs parce que en fait, n'importe quelle discipline ils choisissent, ils sentent assez vite l'avantage de leurs études ici. Pas forcément pour le français, mais en général pour la discipline qu'ils étudient, parce que cette école les prépare justement pour la méthodologie du travail que les autres écoles ne font pas. Donc, à l'université, quand on leur demande d'un coup un travail individuel, faire un essai, faire une argumentation, présenter leurs idées, faire un travail, ce qu'on appelle un travail de séminaire, c'est très dur pour les élèves parce qu'ils ne connaissent pas la méthode. Et là, nos élèves, ils sentent très vite l'avantage parce que c'est maintenant que leur travail qui était plus dur que le travail des autres élèves, maintenant, ça montre la valeur parce qu'ils ont justement cet avantage de savoir faire.
Et des yeux d'ange, toi tu en as 18, mais tu en fais 19.
L'apprentissage du français passe bien évidemment aussi par une mise en pratique, et ce par le biais d'échanges scolaires avec des établissements en France. Une occasion d'apprendre d'autres choses un peu moins conventionnelles. Vladimir Blaha a 17 ans.
Moi, j'aime bien les échanges. C'est vraiment sympa. On peut discuter avec nos camarades, de nos correspondants de Lyon, et ça nous permet d'améliorer un petit peu nos connaissances de la langue française et tout ça.
Est-ce que tu sens justement une évolution, par exemple, que tu arrives à capter un peu plus la langue parlée de tous les jours en France?
Oh oui, c'est ça. J'ai appris quelques nouveaux mots grâce à cet échange. Par exemple, des Français, etc. Donc, c'était pour moi un peu surprenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne le savais pas, mais enfin, je le sais maintenant.
Donne-moi ta main et prends la mienne. Nous avons pour nous toute la nuit. On s'amusera.
Cours en français, échanges scolaires et présence d'enseignants français dans l'établissement contribuent à créer un cadre linguistique pour une meilleure immersion. Et comme s'exprimer dans une autre langue que sa langue maternelle demande aussi un peu de courage, la section théâtre est là, à la fois pour les amateurs des planches tout court, mais aussi pour aider un peu à se jeter à l'eau. Et c'est Valérie Hamelin qui s'occupe de sa petite troupe baptisée les Tréteaux de la Motte.
Donc en fait, j'avais un peu la pression en arrivant parce que il y avait un festival qui existe en République tchèque qui s'appelle le Festival de l'eau de Brno. Et donc on m'avait dit donc il faut reprendre l'atelier théâtre et il faut aller jouer à Festival de l'eau. Et donc c'est un festival qui a lieu au mois de mars, donc c'est très tôt dans l'année scolaire. Et donc en raison de cette participation au festival, on prépare un spectacle qui normalement n'était pas pour moi un objectif fondamental au théâtre. Mais donc maintenant, on joue une pièce qu'on représente à un festival, ce qui est bien, et qu'on joue après en fin d'année. Et pour cette année, on a présenté Métaphore City de Jacques-François Piquet. Je choisis des auteurs français contemporains assez peu connus pour qu'on ait une marge de liberté, en fait, à la fois de mise en scène et d'interprétation. Et on ne va pas se mettre à faire du classique, on n'est pas non plus des comédiens professionnels. Donc moi, je privilégie vraiment la forme théâtrale nouvelle et puis le texte contemporain.
Avant l'Omotes, Valérie Hamelin enseignait aussi le théâtre en France, mais pour des élèves de lycée en option théâtre. Comment s'est alors passée la transition et quelles ont été ses impressions en prenant en charge la petite troupe de l'Omotes?
Maintenant, je crois qu'il n'y a plus de différence et on travaille vraiment sans doute mieux parce que c'est vraiment une volonté, alors qu'en France, c'était un choix d'études. Certains faisaient du théâtre voilà, pour passer un bac, mais il n'y avait pas une vraie volonté toujours théâtrale. Alors qu'ici, ce sont tous des élèves volontaires et je crois qu'ils aiment le théâtre et que ça se sent et qu'on partage cette passion. La première différence, je me rappelle le premier cours de théâtre, j'avais donné donc un exercice à faire qui était d'impro sur une émotion ou sur, je sais plus exactement. Et donc en France, on lance en général un mot d'ordre et puis ça peut durer 40 minutes et c'est souvent à l'animateur d'arrêter en disant oui, c'est bon, ça va. Et là, je lançais des mots et ça durait 3 secondes et les élèves avaient déjà fini et je me suis dit mais c'est terrible, j'ai jamais y arrivé. Mais je crois qu'il y avait aussi, il faut apprendre à se connaître. Ils miment animait en fait très vite une réaction, une émotion, mais ils n'arrivaient pas encore à improviser, à interpréter, à jouer en fait. Et maintenant, je crois qu'au contraire, ils peuvent tenir sur le même exercice, ils peuvent tenir, oui, 40 minutes facilement et sans problème. Donc.
Et c'est peut-être la barrière de la langue aussi qui faisait qu'ils avaient peut-être plus de retenue.
Oui, la barrière de la langue. Je crois aussi une différence culturelle où bon, j'étais leur professeur aussi de français, donc c'est pas facile. Donc j'avais la double casquette et je crois pour eux, il y a quand même le respect du prof. Et je crois qu'ils avaient du mal, je pense, à se laisser aller. Ils ont quand même une discipline que les élèves français n'ont pas toujours. Et les Français sont toujours prêts à s'amuser, même en cours, et ils s'amusent souvent aussi. Et donc, ça leur était beaucoup plus facile en France de se lâcher, de dire des gros mots, ou même d'être dans la provocation, ce qu'ont pas du tout les élèves tchèques, à mon avis. Et ce qui est très bien, parce que finalement, ce qu'ils jouent, c'est que du bon, finalement. Donc, c'est bien.
Rappelons que Prague, Tábor et Brno sont les trois autres villes de République tchèque qui possèdent un établissement d'enseignement secondaire doté d'une section liée au système éducatif français. Il ne nous reste plus qu'à féliciter les bacheliers du CRU 2006 et leur souhaiter bonne chance pour leurs examens d'entrée dans les universités tchèques ou bonne découverte s'ils ont décidé d'opter pour un départ vers la France. Cette semaine, la Tchéquie au quotidien vous a été présentée par Anna Kubišta. Merci à Jarka Fikarlova et Aleš Krupka pour la mise en onde. Bonne semaine à tous.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11665 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In East Africa, tune in at 1600 hours on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen to Radio Prague at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 11600 kHz. Listeners in Australia can tune in at 2000 hours on 11600 kHz.